Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Mon anniversaire, c'est une date trop importante parce que c'est même pas que mon anniversaire, c'est mon anniversaire à 10h20. Et cette même question qui revient, c'est est-ce que je la tutoie parce que ça reste ma mère. Je sais que beaucoup ont du mal à dire maman quand ils ont été adoptés. Pour moi, c'est maman. Je me dis, maman, tu penses à moi? Est-ce que tu penses à moi? J'y parle, en fait, dans ma tête. C'est très dur. Parce que je sais que c'est le seul moment où je suis sûr à 100% qu'elle pense à moi.
Il n'y a pas une seule année où je ne pense pas à lui. C'est obligé, c'est normal. J'arrête pas de penser à lui. J'ai envie de savoir s'il va bien.
Je sais qu'elle y pense, qu'à 10h20, elle le sait. Ce jour-là, il est important pour elle. Il est important pour moi. Né sous X.
Enfant né sous X.
Chère maman, lettre sonore numéro 65.
En France, chaque année, entre 300 et 400 enfants naissent sous X. Ce qui signifie que leurs mères ont accouché de manière anonyme. Les enfants sont alors confiés à l'aide sociale à l'enfance en vue d'une éventuelle adoption. Les mères, elles, ont ensuite un délai de 2 mois pour revenir sur leur choix et récupérer leur enfant.
Robin est né sous X il y a presque 30 ans et aujourd'hui, il cherche désespérément sa mère. Emma, elle, a accouché sous le secret il y a 33 ans. Depuis plusieurs années, elle tente de retrouver son fils. Robin n'est bien sûr pas l'enfant d'Emma, mais il pourrait presque l'être, à quelques années près. Il vit dans l'Oise. Emma habite seule dans une grande maison à Villeneuve-sur-Yonne, en Bourgogne.
Alors, j'ai grandi à Fontainebleau, dans une cité. J'ai connu un garçon, j'étais amoureuse de lui, mais seulement mes parents ne voulaient pas que je sorte avec les garçons, donc j'ai dû me cacher pour avoir un simple petit bisou. Quand il pouvait venir au collège me voir, il venait, on se donnait la main et puis c'est tout. C'était un fugueur lui-même, il vivait dans les caves. Parce que ses parents, lui aussi, il m'a raconté qu'il s'était fait taper par sa mère. Donc lui, il a pris ses habits, il est parti et il vivait dans les caves depuis plus de 1 an ou 2 ans déjà. Oui, il avait 15 ans. Et moi, j'ai fait connaissance avec lui dans ma cité. Et puis après, je suis sortie avec pendant plus d'un an. Ouais, j'avais 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans, je l'ai connu. Moi, j'allais aller au collège. J'apprenais à faire de la couture et je voulais passer mon CAP couture. Et quand j'ai dit à mon père, c'est cool, je vais passer mon CAP couture. J'adore ça, en plus la couture, j'étais la première de ma classe. Et là, mon père, il m'a dit « Non, mais ça va pas, ma fille, tu vas pas prendre le train pour aller à l'école à Paris, tu vas te faire violer, t'es folle, tu restes là avec ta mère à faire le ménage, le repassage. Non, 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 tu n'y vas pas. » Et moi, dans ma tête, j'étais effondrée. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas tout le temps faire... » Le ménage à la maison, il faut bien que je fasse ma vie, moi. J'ai envie de gagner des sous aussi, j'ai envie de gagner ma vie. Et comme j'avais mon petit copain qui était en fugue, je lui en ai parlé. Et il m'a dit, si tu veux, ce soir à minuit, tu sautes par la fenêtre et on fugue tous les deux. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, on ira à Nice parce qu'à Nice, il a de la famille là-bas. Après, il m'aurait aidé à avoir un appartement, du travail, ou je sais pas. Et j'ai pris un sac à dos, j'ai mis mes affaires dedans. J'ai attendu minuit. À minuit, il était là en bas de ma fenêtre. Et j'ai sauté. Et j'ai été dans son squat, dans les caves, là où il était. Et puis, bah, comme on était amoureux, bah, forcément, j'ai couché avec. Et vers 5h, 6h du matin, il savait que le train il allait arriver vers 5h, 6h. Donc, on a été à la gare de Fontainebleau. Et on a attendu le train. Et d'un coup, la police, la gendarmerie, les gendarmes, ils sont sortis de nulle part. Je sais, je les ai même pas vus. Ils ont couru après nous. Et mon petit copain, il m'a dit « Donne-moi la main !» Et on a couru sur le chemin de fer du train. Et on n'a pas été très loin, hein, ils nous ont attrapés. Alors lui, ils ont dû le mettre dans une autre gendarmerie, je ne sais pas où. Voilà, et à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais à la gendarmerie de Fontainebleau. Alors, de 6h du matin jusqu'à midi, parce qu'à midi, ma mère, elle est venue me chercher. En sortant de la gendarmerie, elle me dit comme ça, tu sais ce qui t'attend à la maison. Je pensais que mon père, il allait m'engueuler. Voilà. Mais non, il ne m'a pas engueulé, il m'a tapé avec une cravache pour les chevaux, là. C'est... tout en ferraille avec enroulé du cuir autour. Et il m'a tapé avec ça. Il m'a dit de me déshabiller. J'étais en petite culotte et en soutien-gorge. Et il m'a tapé sur tout le corps, par les cheveux. Il m'a tenu et il m'a secoué en me tapant. Et puis moi, j'essayais de me débattre. Et j'étais toute lacérée de coups de fouet. Pendant plus d'une heure, il m'a tapé. Et j'ai cru que j'allais mourir hein, ce jour-là quand il m'avait tapé. Et ma mère aussi parce qu'elle est venue nous séparer. Voilà, je me suis mise sur le lit. Ma mère m'a mis de la pommade partout. Et ma mère elle me dit dans mon oreille en chuchotant « Tu recommences plus, hein, c'est fini, arrête. Arrête tes conneries. » Je dis « Oui, 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 c'est bon maman, oui, c'est bon. »
Je m'appelle Robin, j'ai 29 ans, je suis né sous X. Ma vie a commencé sur les chapeaux de roue pour le coup, a commencé il y a 29 ans maintenant, quasiment jour pour jour, et à Compiègne, où je suis né dans un hôpital qui était en voie de fermer en plus, donc qui est devenu une maison de retraite aujourd'hui. Et puis ma mère a couché de moi sous X, donc de manière très classique. Donc, c'est-à-dire que je n'ai ni connaissance de ma mère, ni connaissance de rien à son sujet. 4 mois après, j'ai été adopté par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant et avec qui ça s'est très bien passé dans les premières années. Pour reprendre chronologiquement, moi je l'ai su qu'après, c'est que mes parents ont eu un enfant, Estelle, qui est décédée quelques jours après sa naissance en fait. Elle était prématurée. Ma mère a failli passer aussi à ce moment-là. Ma mère a réussi à s'en sortir, ma sœur non. Et après, ils ne pouvaient plus en avoir, donc ils m'ont adopté. Et j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur, du coup, qu'ils ont eu avant moi. J'ai appris que j'étais adopté assez tôt, peut-être 6-7 ans à peu près, et on a commencé à m'en parler. Alors, ils m'ont tout bien expliqué, pour le coup, mes parents, qu'il y a forcément, il y a peut-être un dossier que je pourrais retrouver un jour, mes parents, si je le désirais. Quelque chose qui faisait du mal quand même à ma mère adoptive. Je le voyais bien. Des questions, je les ai posées à mes parents après, pendant l'adolescence. Ce que je voulais savoir, en fait, qui étaient mes vrais parents. Alors, je suis passé par différentes phases. D'abord, la phase de colère envers mes parents adoptifs, qui n'y étaient pour rien. Envers ma mère biologique, celle que je sais appeler maman. Une phase de colère et d'incompréhension, de pourquoi, en fait. Pourquoi ? Pourquoi je la connais pas ? Pourquoi elle a fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, très grande colère. Très grande colère parce que une colère d'incompréhension.
Pendant 3 semaines, je suis restée à la maison en pyjama. J'ai pas été à l'école, rien. J'avais pas mes règles. Au bout de 2 ou 3 mois, je me suis dit, ouais, je suis enceinte ou quoi. Puis j'avais le ventre un peu dur. Je sentais un truc bouger là-dedans. Je me suis dit, oh là là, c'est pas vrai, je suis enceinte. C'est pas vrai, je suis enceinte. Oh là là. Mais je disais rien. Mais après, on peut plus cacher. Donc ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, ouais, je crois que là, t'es enceinte. Et là, elle a pris rendez-vous chez le gynécologue à l'hôpital de Fontainebleau. Donc, 3, 4 mois. Ouais, au bout du 5e mois, à peu près, on a eu le rendez-vous. Et on m'a fait une échographie et effectivement, j'étais bien enceinte. Puis là, on peut pas se faire avorter, c'est trop tard. Obligé de le dire à papa. Il s'est retenu, hein. Il s'est retenu et il m'a pas tapé. Et il a dit à ma mère de prendre un corset pour serrer, pour cacher le ventre, pour pas qu'on voie que j'étais enceinte. On m'a mis des bandages au sein, parce que les seins, ils gonflent quand les femmes sont enceintes. Tous les jours, j'y avais droit. Tous les matins, il fallait que je mette le corset. Et tous les soirs, je l'enlevais pour que je puisse respirer quand même. Avec le recul, je me dis que c'est bête. Voilà. Parce que même lui, il aurait pu mettre un préservatif. On ne parlait pas de ça à la maison. Dans un sens, c'est aussi de la faute de ma mère. Pourquoi elle ne m'a pas donné la pilule ? Ils m'ont dit, tu vas accoucher sous X. Et dire ça à une gamine de 15 ans, qu'est-ce que ça veut dire, sous X ? Bah alors là, je sais pas, j'en sais rien. À 15 ans, on connaît pas tout. Hein. On ne connaît pas tout. Puis aujourd'hui, avec Google, on peut se renseigner, mais à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de Google, tout ça. Bah, j'ai rien compris. Je comprenais rien. De quoi ils me parlent, sous X ? Je sais pas. J'en savais rien du tout.
J'ai eu une belle enfance. J'ai eu une belle enfance. Jusqu'à un certain moment. En tout cas, ça s'est pas bien passé à partir de l'adolescence parce que je suis parti un peu en vrille dans ma vie. J'étais très tête brûlée. J'avais envie de tout casser, en fait. Et je pense que j'avais tellement envie de tout casser que j'ai réussi à casser mon cocon familial, entre guillemets, avec mes parents. J'ai réussi à le casser complètement. J'ai complètement raté mes études, je l'ai fait volontairement. Je savais que c'était quelque chose de très important pour ma mère, notamment. Je suis sorti sans autorisation, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire de l'alcool très tôt, finalement, du coup. Mais tout ça dans un seul but, c'était de... Je voulais pas être aimé, en fait. En fait, je voulais pas de ce qu'on m'avait imposé dans cette situation d'être adopté. Je voulais pas vivre, en fait, même. Parce que je me disais, mais en fait, à quoi ça sert que je sois là ? Puisqu'on n'a pas voulu de moi.
Ce que je regrette, c'est que j'ai pas vu d'assistante sociale pour me dire n'abandonnez pas votre bébé, gardez-le. Aujourd'hui, il y a des aides, on peut vous trouver un appartement, vous aurez droit à l'APL, vous avez droit, comme tout le monde, aux allocations familiales. Mais moi, j'ai vu personne. Et puis, comme j'avais pas le droit de sortir, comme ça, personne n'a rien vu.
J'en ai fait voir de toutes les couleurs à ma mère. Parce que ma mère m'en a fait voir aussi pas mal. Aussi. Parce qu'il y a eu des mots aussi de ma mère, de colère, comme quoi elle aurait préféré que sa fille ne meure pas, que je remplacerai jamais. Qu'elle aurait préféré pas m'adopter, qu'on était 3 enfants à l'adoption. Je sais pas, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Je sais pas si on peut avoir le choix, en tout cas. Moi, c'est comme ça qu'elle me l'a présenté et elle m'a dit on aurait dû prendre quelqu'un d'autre. J'avais toujours l'ombre de ma sœur qui était là, en fait. Elle était là partout, tout le temps. Et la violence des mots, la violence des actes, parce qu'il y en a eu. Et moi, j'ai joué là-dessus à un moment donné parce que j'avais tellement de colère. C'est la première fois que je suis parti de chez mes parents. Je suis allé au cimetière pour aller voir, en fait. Pour savoir, parce qu'on ne me parlait que de ça. Je voulais savoir qui c'était. Donc j'ai traversé la ville, je suis allé jusqu'au cimetière et j'étais enragé. Elle a été mise en fosse commune parce que la concession n'avait pas été payée. Et à ce moment-là, j'ai pété un plomb. Je suis retourné chez mes parents. J'ai été voir ma mère et je lui ai claqué le but en blanc. De toute façon, tu me dis toujours que t'aimes ta fille, mais tu la laisses croupir dans une fosse, quoi. Et là, c'est la pire connerie de ma vie. J'avais jamais le droit de lui dire ça, en fait. Je pense que d'ailleurs, je m'en voudrais toute ma vie. C'est horrible. Et donc ça, c'est la pire connerie. Mais c'est la connerie qui a tout fait basculer, pour le coup. Parce que là, j'avais réussi mon coup, j'ai réussi à tout casser. Après ça, je suis plus jamais revenu. J'ai plus jamais laissé de nouvelles. On s'est plus revus. Je le vis comme deux abandons. Parce que même si au début, je pense que tout était louable et qu'ils ont voulu m'offrir une belle vie, et ils me l'ont offerte quand même, hein. J'ai quand même eu une belle enfance, malgré tout. Mais ils m'ont pas compris, je pense. Ils m'ont pas compris.
J'ai accouché le 1er janvier 1991. Le 31 au soir, à minuit, j'ai commencé à avoir des contractions. Et j'arrêtais pas de tourner dans ma chambre en rond. J'avais mal. Je suis restée pendant plus d'une heure comme ça. Et j'ai été réveiller ma mère... À 1h du matin, maman appelle vite papa parce que là, j'en peux plus, j'ai très mal. Et les deux parents étaient là, avec moi, à l'hôpital. Et ils n'arrivaient pas à le faire sortir. Alors à mon avis, ça devait être un gros bébé. Le jour où j'ai accouché, je crois que je me suis endormie tout de suite. Après avoir fait le bébé, je me suis endormie. C'est le trou noir. Après, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre, toute seule.
Et vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu le bébé ?
Non. Non, jamais vu. Je crois même qu'il m'avait mis un drap devant pour pas que je voie. Après, je sais pas si mes parents l'ont vu, le bébé, ou quoi, mais mon père m'a dit au bout de... une vingtaine d'années, on va dire ça. Il me regarde comme ça dans les yeux. Tu sais que c'est un garçon ? Ah, je l'ai regardé. Et là, j'ai fait tilt dans ma tête. Ah, il s'est renseigné. Alors, le jour de l'accouchement, il a dû aller voir une infirmière et demander, voir, c'est quoi ? C'est un garçon ou une fille ? Et l'infirmière, elle a dû lui dire que c'était un garçon. J'en suis sûre qu'il a été dans une famille... une bonne famille adoptive qui a fait le travail à ma place, j'en suis sûre.
Après avoir quitté donc le domicile, j'ai été à la rue pendant quelques temps, pas très longtemps, suffisamment. Je suis rentré dans un foyer de jeunes travailleurs, foyer d'immigrants aussi. J'avais 18 ans quasiment quand je suis rentré. Ouais. J'avais 18 ans. Pas grand monde parlait français. J'avais de l'argent sur mon livret A parce que j'avais pris quand même ma carte de livret A. Mes parents m'avaient donné. J'avais un code. Et donc, quand j'ai pu m'en servir à mes 18 ans, j'ai commencé à tout claquer. Ça a été très vite. Ma vie, elle s'est construite sur du n'importe quoi. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une fille. On s'est mis ensemble, mais elle était complètement alcoolique. Enfin, c'était pas vivable. Moi, j'étais pas forcément mieux de mon côté. On a habité ensemble pendant quelques temps. Après, je l'ai quitté. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. On habitait ensemble pendant quelques temps. Je l'ai quitté, et ainsi de suite. En fait, ça a été que la recherche de l'amour, en fait. Je suis passé par cette phase de me dire, en fait, je recherche l'amour de quelqu'un. J'étais très dépendant à ça, en fait. Je me suis posé souvent la question quand j'étais dehors, est-ce que j'ai croisé ma mère ? C'est un truc qui m'a obsédé, qui m'obsède encore. Ça se trouve, elle habitait encore Compiègne, ça se trouve, je travaillais dans des bars, je l'ai peut-être servi, je l'ai peut-être croisé, je l'ai peut-être insulté, je sais pas, j'ai peut-être eu juste un contact visuel avec. Je sais pas. Et j'ai recherché l'amour aussi des femmes plus âgées. Et là, j'ai compris. Je cherchais vraiment un amour maternel. Mais là, ça devenait peut-être malsain. C'est impossible de se construire, ouais, sur ce qu'on ne connaît pas. J'ai jamais rencontré, mais elle me manque. Elle me manque et je... Elle m'a mis au monde et... J'ai peur de rien être pour elle. J'ai peur qu'elle soit... Qu'elle n'ait rien à faire. J'ai peur d'avoir passé ma vie à... chercher quelqu'un qui s'en fout ou qui... J'ai peur de... qu'elle penserait de moi quand elle me verra. Je sais pas. J'aimerais qu'elle soit là, ma vraie mère, enfin, pour lui dire qu'elle puisse me prendre dans ses bras, que je puisse lui parler de plein de choses. Même 5 minutes. Je donnerai tout.
Cher bébé né sous X. Le 1er janvier 1991 à Créteil. Si tu as besoin de savoir où est ta maman, bah je suis là, je suis toujours vivante. Si tu as besoin de me parler, fais tout le nécessaire pour essayer de me contacter. Je suis pas méchante, je suis très gentille, je suis une super maman, comme tous mes enfants me le disent. Mes enfants sont prêts à t'accueillir aussi chez nous. Ça fait 33 ans que tu me manques. 33 ans que j'arrête pas de penser à toi. 33 ans que chaque anniversaire t'es pas là. 33 ans que chaque Noël tu n'es pas là non plus. Donc tous les ans je pense à toi. Fais-moi signe si... tu veux me retrouver. Ta maman, elle s'appelle Emma.
Aujourd'hui, les propositions pour retrouver ses parents, elles sont à la fois multiples et très restreintes. Alors, au début, la première chose que j'ai faite, c'est Facebook. C'est tout bête. J'ai fait des posts sur Facebook en me disant que de toute façon, c'est le réseau social le plus suivi. Il y a beaucoup de groupes. Peut-être que je vais réussir. Donc j'ai posté sur tous les groupes possibles et inimaginables mon histoire, enfin, du moins le fait que je suis né le 30 mai 94 à Compiègne. Que je recherche ma mère. Pour savoir si j'ai jeté une bouteille à la mer, d'ailleurs. Je pense que c'est le titre, d'ailleurs, du groupe.
Et ça n'a rien donné.
Non, non.
J'y vais tous les jours dessus. Comme vous voyez, il y a Né sous X, je te recherche, une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer perdue de vue, je te recherche. Voilà, ça c'est moi. Bonjour, y a-t-il des Né sous X le 1er janvier 1991 à Créteil dans ce groupe? Je suis une maman qui a accouché sous X qui recherche son fils. Merci. Donc si quelqu'un a un ami... dans son entourage, qui a 31 ans ou 32 ans, typé métis, demandez-lui si il a été adopté, peut-être que je suis sa maman. Je veux juste lui raconter mon histoire, c'est aussi son histoire. Apparemment, il y en a plein qui trouvent. J'ai vu, de temps en temps, il y en a un. Merci à vous tous pour votre partage, ça a marché, j'ai retrouvé ma maman. Elle a eu de la chance, hein. Celle-là, elle a eu vraiment de la chance. Faut y croire. Faut aller jusqu'au bout des démarches. Jusqu'au bout du bout.
Beaucoup de partage, beaucoup de gens qui sont venus me parler, beaucoup de bons conseils qui m'ont dit que voilà, il fallait que je fasse ma demande au CNAOP, CNAOP, je crois. Alors le CNAOP, c'est pour accéder à son dossier et à ses origines. Donc on fait une demande, la demande est traitée, elle met du temps à être traitée. À partir de là, si la demande est traitée, ils vont ouvrir mon dossier, contacter ma mère parce qu'ils ont son contact, enfin... S'ils l'ont toujours, parce que ça, je compris qu'apparemment, c'était pas forcément sûr. Contacter ma mère. Elle peut avoir décidé de me mettre un papier, de me mettre une photo, de me mettre ce qu'elle veut, en fait. Je peux tout avoir ou rien du tout. Donc j'aurai mon dossier. Mais si elle veut pas me rencontrer, par contre, je pourrai pas la rencontrer du tout. Donc la position de la mère est sacrée par rapport à ça. Donc je n'aurai vraiment rien du tout. Donc je peux très bien faire une demande et que ce soit un coup dans l'eau, quoi. Faire chou blanc complètement, quoi. J'ai rempli ce dossier.
Et donc là, vous en êtes où ?
J'attends.
Pourquoi c'est si long, le délai de traitement ?
Parce qu'il faut retrouver tout. Il faut aller chercher dans des archives, que ça n'a pas forcément été numérisé. Ils vont contacter l'hôpital où je suis né, qui n'a peut-être plus le dossier. Il faut savoir que je vais avoir 30 ans et les archives sont conservées 30 ans.
Ils changeaient les dates de naissance, l'adresse de l'hôpital, de là où ils sont nés, pour justement qu'on ne puisse plus les retrouver.
Et vous, ils ont fait ça ? Vous pensez qu'ils ont changé la date de naissance ?
Oui, parce que là, j'ai envoyé une lettre au CNOP, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Alors, c'était à Paris, le 15 mars 2019. Alors, c'est marqué, par courrier 14 mai dernier... Vous m'avez adressé votre déclaration de levée de secret concernant l'enfant dont vous auriez accouché le 1er janvier 91 à l'hôpital de Créteil. Je vous informe que les recherches effectuées auprès du conseil département du Val-de-Marne et le service de l'état civil de Créteil se sont révélées infructueuses. Je vous demanderai de bien vouloir m'adresser de nouveaux éléments afin que je puisse poursuivre mes investigations. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils veulent comme éléments parce que moi, j'ai que la date de naissance de mon fils qui est né à l'hôpital de Créteil. Mais eux, ils disent qu'il n'y a pas une naissance à cette date-là alors que j'y étais vraiment.
Pas faire grand chose d'autre en fait, parce que du coup, pour revenir sur ça, il n'y a pas d'autre solution. Alors, si il y a faire un test ADN, engager un généalogue,
un détective privé,
voilà, et ensuite lui il va regrouper, il va chercher, mais c'est un coup faramineux.
Alors, moi j'ai parlé avec Fabrice Brault, le détective privé, je l'ai appelé. Et je suis restée pendant plus d'une heure et demie au téléphone avec lui pour savoir comment que ça se passait pour les nés sous X, voilà, et pour les mamans aussi qui recherchent. Et ça coûte cher. Il m'a dit le prix à cette époque-là, c'était 5000 euros.
Je ne suis même pas sûre que ça aboutisse. Il va faire l'enquête et il va me rendre ses conclusions. Et... Alors il pourra faire l'enquête plus longtemps, hein, mais il faudra que je paye plus. Et j'ai pas envie de ça. C'est pas que j'ai pas envie de payer, c'est que c'est mon histoire et je salis mon histoire. C'est un sentiment très bizarre, mais je n'adhère pas.
Et la solution du test ADN pour la recherche de votre famille, est-ce que ça vous l'avez envisagé ?
Oui. Mais j'ai pas commandé encore. J'ai pas passé le pas par. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de démarches d'un coup. Enfin, Si j'ai pas de réponse, peut-être que je le ferai, oui.
Qu'est-ce qui vous fait peur maintenant que c'est rempli, que c'est envoyé, que vous êtes dans l'attente ?
Le nom. Ou que le dossier soit vide. Ou qu'elle soit décédée. Ou qu'elle veuille pas me parler. Ça me permettrait d'avancer quand même. Je me dirais, c'est bon. J'aurais fait le nécessaire. Je serais en paix avec moi-même. Mais ouais, ça me fait peur. C'est peut-être même le oui qui me fait le plus peur, en fait. Parce que, au contraire, là, on rentre dans le vrai.
Ça a été quoi le déclic ces derniers mois, ces dernières années ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ?
Oui. Mon âge. Mon âge. En fait, le fait d'avoir 29 ans là et de me dire que je suis dans la dernière année de la vingtaine, ça a joué énormément. J'ai fait le bilan de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. Mais la question que je me pose en ce moment, c'est où je vais ? Je vais où ? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être vraiment heureux ? Et à chaque fois, la réponse est la même, c'est ça. C'est connaître ma mère, connaître mes origines. Je me dis que peut-être j'avancerai mieux, mais je serai plus serein. Que la réponse soit positive ou négative, je serai plus serein. Et puis aussi peut-être pour en élever des enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qui me trotte. Est-ce que j'y arriverai ? Est-ce que si je peux pas en avoir, je serai capable d'adopter ? Je vais très loin dans mon raisonnement, mais... Tout ça, c'est des questions qui sont pas évidentes aujourd'hui. Mais j'y pense, parce que ça peut arriver.
J'ai retrouvé son papa grâce à Facebook en 2018. Voilà, les réseaux sociaux, je l'ai cherché, mais j'avais pas de nom. Donc j'ai marqué son prénom et j'ai fait toutes les lettres d'alphabet pour le A, tous les noms en A, tous les noms en B, tous les noms en C, tous les noms de toutes les lettres d'alphabet. Et je l'ai trouvé. Je fais « Ah d'accord, il s'appelle comme ça. Ok. Ah oh, bah il est reconnaissable. » Donc là, je lui envoie un message, il me dit « Oui, je me rappelle de toi. » Je lui dis « Est-ce qu'on peut se voir ?» Il m'a dit « Oui. » Et le vendredi qui a suivi, on s'est revus. Après, j'espère pas que mon fils, il est comme son père. Et j'espère qu'il a tout de moi, qu'il a pas tout de son père. Et monsieur, il fume des joints, il fume du crack. Il va en prison aussi pour du stup. Il fait des bébés partout. Voilà. Mon fils, il a une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine de frères et sœurs. Et il n'a pas de chez lui, en fait. Il vit chez les femmes. Je lui ai demandé... T'es parti où une fois qu'ils nous ont attrapé la gendarmerie ? Où est-ce que t'as disparu ? Il m'a dit que ils l'ont mis dans un foyer d'accueil pour jeunes enfants en Bourgogne, vers Dijon, je crois, un truc comme ça. Et là, il me dit comme ça, j'ai rencontré une fille. Bon, d'accord. Donc, je me suis dit, tu ne m'aimais pas assez pour revenir me chercher et cette fois-ci partir ensemble, tu vois. Il aurait pu fuguer du foyer à Dijon et revenir me chercher s'il m'aimait vraiment. J'ai attendu qu'il vienne me chercher, hein. Je l'ai attendu, hein, mais il n'est jamais revenu. Je lui ai dit, le jour où on a couché ensemble dans la cave, là, ton squat, je suis tombée enceinte. Et il m'a dit, il est où ? J'ai dit « Non, mais il n'est pas là. J'ai accouché sous X. » Et j'ai dit « Non, non, il faut le chercher. Il faut engager un détective privé. Voilà, ça coûte cher. J'envoie des messages sur les réseaux sociaux, sur une bouteille à la mer, tout ça, les groupes. Pour si jamais, un jour, il voit mon message. Il s'en fout, en fait. » Même pas il m'appelle, même pas il me dit « Alors, t'as retrouvé ton fils, t'as retrouvé mon fils ?» Il me dit rien. Donc, il s'en fout.
Donc, j'étais en colère pendant toute cette période de la vingtaine. Et là, très récemment seulement, à la fin de cette période, justement, j'ai commencé à me poser les vraies questions, à me demander pourquoi, comment, est-ce qu'elle n'avait pas le choix, On ne veut pas se poser la question, mais on finit par se la poser quand même. J'ai écrit, est-ce que je suis le fruit d'un viol ? C'est la question la plus violente que j'ai pu me poser toute ma vie. Et si c'est le cas, alors là, ça rebat les cartes. Il n'y a plus de colère pour maman. Il y a le pardon, peut-être. Il y a le pardon, lui dire tout va bien, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler. J'ai envie de la voir. J'ai envie de la comprendre. Parce que je sais que c'est pour une bonne raison, maintenant. Je sais qu'on n'abandonne pas son enfant parce qu'on a envie d'abandonner son enfant. On abandonne son enfant parce que la vie est compliquée, parce qu'on veut lui offrir un avenir. Moi, j'ai juste envie de la voir, en fait. Lui dire, ça va, tout va bien. Puis lui dire, je te pardonne, parce que je me dis que peut-être elle s'en veut. J'ai même, et ça je l'ai toujours imaginé, imaginons que je connais son adresse, où on se présente, où on se retrouve quelque part, je frappe à une porte, je dis quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Ben voilà, je m'appelle Robin, j'ai 29 ans. Je suis votre fils, quoi. Et j'aimerais qu'on parle. Savoir aussi, plus important, et c'est très égoïste aussi pour le coup, je viens d'où ? J'ai des origines. Qui est mon père ? Et quelle a été sa vie après ? J'aimerais tout, en fait. Qu'elle soit accomplie dans sa vie professionnelle, personnelle, amoureuse, avec des enfants, avec la maison, avec tout qui va avec. Qu'elle soit heureuse, en fait.
Aujourd'hui, j'ai 3 fils. Un qui a 23 ans, le deuxième qui a 15 ans et le troisième qui a 16 ans. Alors, je leur en ai parlé en 2018, quand je leur ai dit que j'allais chercher le papa de mon fils, né sous X. Et en même temps, je leur ai raconté ce qui m'était arrivé. Et donc, eux-mêmes, ils m'ont dit « Maman, c'est incroyable ce qui t'est arrivé, c'est un vrai film, tu devrais faire un film ». De ton histoire, c'est grave. Bah vas-y maman, cherche-le, au contraire. Ça pourrait nous faire un grand frère aussi, vu qu'il a 33 ans.
Moi j'aimerais bien juste un visage. Même si je la rencontre pas, un visage, un visage, une photo. Je l'imagine, c'est brumeux tout ça. Je parle à la brume. Je l'ai imaginé tellement, hein. Ma mère me dit, elle a les yeux verts... Moi, se trouve elle est brune ou... Enfin, je sais, je vais te faire un portrait robot, ça se trouve, je n'y ressemble pas du tout.
J'essaye d'avoir une image de lui, oui. À quoi est-ce qu'il peut ressembler ? J'ai fait des photos de son père et de moi, et j'ai fait un mix, un mélange de nous deux sur l'application FaceApp. C'est marqué... homme âgé de 30 ans et j'ai mélangé les deux photos et bon, je sais pas si ça a une ressemblance ou pas, mais...
Vous l'avez là, la photo ?
Ouais, c'est marrant, c'est rigolo. Photo. Il ressemblerait à ça. Plus à ça.
Donc c'est un garçon plutôt mat de peau, hein, à la peau noire.
Ouais.
Il a les yeux marrons. Cette photo mélangée par cette application, vous l'avez gardée dans votre téléphone ? Vous la regardez parfois ?
Ouais. Ben, on ne sait jamais si dehors je vais me promener et puis je vois sa tête comme ça, une tête comme ça qui passe à côté de moi, je l'arrête tout de suite. Je lui dis excuse-moi. Je lui poserai la question. C'est normal.
Terrifiant. Je ne saurais pas quoi lui dire. C'est ça qui est paradoxal. J'ai tellement envie de la rencontrer, je ne saurais pas quoi lui dire. Et j'ai au moins envie de la rencontrer, ne serait-ce qu'une seule fois, même une heure. Qu'on s'explique, qu'on se parle. Et qu'on reparte chacun de notre côté, s'il faut repartir chacun de notre côté. Parce que je ne suis pas dupe, je sais qu'on n'arrivera pas à rattraper le temps perdu sur 30 ans. On n'arrivera pas à construire une relation mère-fils. Mais on essaiera.
C'est mon premier bébé. Et j'ai eu très très mal, j'ai eu de la souffrance. Donc je veux que la souffrance, elle s'apaise quand je le vois. Et j'ai besoin de le voir et de lui parler et de savoir des choses sur lui aussi. Et lui, il veut peut-être savoir des choses sur moi aussi, pour voir. Et puis même s'il est décédé, j'aimerais bien savoir s'il est décédé. On ne sait jamais, il a peut-être pu avoir un accident de voiture. Je ne sais pas, moi. Si ça se trouve, il n'est même pas en France, il habite en Amérique, aux États-Unis, dans une famille riche, richissime.
Je lis. Maman. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Bientôt 30. Mais ça, tu le sais. Tu le sais déjà parce que t'as pas pu oublier le 30 mai 1994. À 10h20. Dans ce vieil hôpital. J'essaie de pas trop y penser. Mais j'ai plein de questions. Ce jour-là, penses-tu à moi? Si tu me rencontrais, serais-tu fier de moi? Est-ce que je te ressemble? À quoi tu penses? Et si on se rend compte, on se dirait quoi? On se rassurerait, j'aimerais te rassurer, te dire que tout va bien. Ne t'en fais pas.
Vous êtes arrêté là-dessus?
J'en ai écrit plusieurs, mais je m'arrête toujours là-dessus. Mais si je devais continuer cette lettre, alors... Je ferai oralement, mais... Je lui dirai merci dans une lettre où je continuerai. Je finirai par merci, maman. Parce que je pense qu'il faut bien plus de force. Pour décider d'abandonner un enfant. Pour accepter le fait que peut-être on n'est pas capable de l'élever. Pour le confier à une famille meilleure. Dans l'espoir d'un avenir meilleur, je me rends compte que c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qui existe. Voilà. Merci, maman.
Vous venez d'écouter un épisode de Postscriptum, le podcast qui propose de renouer un nouveau dialogue. Merci à Maria Pia Brifo pour son aide précieuse avec son association pour le droit aux origines des personnes nées sous X. Elle a aussi écrit le livre Le secret de ma mère, l'histoire d'une jeune femme qui part sur la trace de sa grand-mère biologique.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too,
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.